Une heure de plus ici à Paris, à suivre dans Afrique Matin, Berberati, troisième, pour le dernier épisode de notre série de reportages dans cette ville du sud-ouest de la Centrafrique, direction la plage de Berberati, le lieu où l'on vient se détendre. Et comme tous les dimanches, on a rendez-vous aussi avec Tirtan Karchanda, la chronique Chemin d'écriture, aujourd'hui avec le premier roman de la réunionnaise Fabienne Jonka. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Les sports avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Le football et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La cinquième journée hier s'est conclue sur la mauvaise affaire du Sénégal.
Les Lions tenus en échec au Soudan. Un 0-0 frustrant pour les hommes de Pape Thiaw qui se retrouvent au troisième rang derrière les Soudanais et la RDC dans leur groupe B. Autre nul, autre mauvaise opération, le 2-2 concédé par le Togo face à la Mauritanie. Des éperviers qui ont dû s'employer pour revenir au score à 20 minutes de la fin. Quatrième avec 4 points, les Togolais croient toutefois encore à la qualification, à l'image de leur défenseur Kevin Boma.
On avait la maîtrise de ce match, surtout en première mi-temps, et on a réussi à ouvrir le score en première mi-temps, donc on avait le contrôle. Voilà, on avait voulu mettre à la même intensité, voire mettre le deuxième but pour pouvoir les achever complètement, ce qu'on n'a pas su faire, et ils ont su prendre l'avantage pour marquer 2 buts. Heureusement, on a réussi à égaliser, on a pu sauver les meubles. On espère faire mieux les prochaines fois, tout simplement.
Oui, la prochaine fois, c'est le Sénégal.
Ouais, c'est le Sénégal, peu importe l'adversaire. Dans tous les cas, si on joue notre jeu avec nos forces, on aura des occasions. Donc, on a confiance aujourd'hui en nous. On ira faire le mieux qu'on peut.
Vous y croyez encore, cette qualification-là?
Bien sûr qu'on y croit encore. Bon, on jouera à fond, qu'on essaiera de corriger nos erreurs et toujours chercher à s'améliorer, à aller de l'avant.
Kevin Boma avec Comlan et Clou. Les Mauritaniens, eux, sont cinquièmes avec 2 points dans ce groupe.
Et ce dimanche, Antoine, début de la sixième journée de ces éliminatoires avec 2 rencontres au programme.
Coup d'envoi 13h, temps universel dans les deux cas. Dans le groupe D, match de la survie entre Iswatini, dernier avec 1 point, et l'île Maurice, cinquième avec 4 unités. À la même heure dans la poule F, le Gabon, deuxième avec 12 points, va affronter le Kenya, quatrième à 6 longueurs.
Et les affaires du football se poursuivent ailleurs en Afrique. La Côte d'Ivoire expérimente la VAR.
L'arbitrage vidéo avec lequel les officiels ivoiriens se familiarisent. Ainsi, jeudi dernier, le premier match test entre un club de Ligue 1 et un de Ligue 2 a eu lieu au stade Champrou d'Abidjan, sous le regard de la FIFA et de Youen Gourlay.
Vous venez.
Sur cette action, Stéphane Naï vérifie une potentielle faute. Après avoir zoomé sur les pieds des joueurs, il est formel.
À peine de touche, rien.
Dans le camion vidéo, l'arbitre VAR est accompagné d'un assistant et d'un technicien pour scruter la douzaine d'écrans à sa disposition. L'arbitre zoom, dézoome, revient en arrière, revisionne au ralenti les actions litigieuses grâce au matériel qui avait été utilisé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les arbitres ont pour mission de vérifier les 4 piliers de la vidéo. S'il y a but, pénalty, carton rouge et si le carton a été donné au bon joueur. Pour Stéphane Naï, ce tout premier match est un moment important pour le foot ivoirien.
Ça apporte un souffle nouveau à l'arbitrage ivoirien parce que ça nous aide dans les prises de décision. C'est sûr que ça va clairement impacter le championnat.
Sur le terrain, le Stella Club d'Adjamé, club de Ligue 1, et la Estanda, club de Ligue 2, s'affrontent en amical. Si durant la première période, Stéphane Naï aura eu peu d'interventions à réaliser, la deuxième période sera riche en rebondissements, quelques litiges, un pénalty obtenu par le Stella Club d'Adjamé grâce à la VAR. Abou Koulibaly, l'arbitre de la rencontre, a apprécié l'aide de la vidéo.
Aujourd'hui, c'est un outil qui arrive chez nous. On ne peut que l'accueillir avec vraiment beaucoup de joie. On espère que ça va du mieux au maximum les contestations.
Après la formation de 30 arbitres et 3 techniciens en début d'année, puis cette expérimentation grandeur nature, la FIFA qui supervisait la rencontre mais qui n'a pas souhaité s'exprimer, doit maintenant valider ou non la technologie pour le championnat ivoirien. Une validation espérée ces prochaines semaines par le corps arbitral. Youen Gourlay, Abidjan, RFI.
Et on termine, Antoine, avec le tennis. 11 Jabeur abandonne au 3e tour à Miami.
La Tunisienne, gênée par son mollet, a jeté l'éponge face à l'Italienne Jasmine Paolini alors qu'elle était menée 4 jeux à 3 dans la première manche.
Merci Antoine Grenier, c'était le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce dimanche 23 mars, c'est la 4e nuit de mobilisation en Turquie en soutien au maire d'Istanbul. Des milliers de Stambouliotes se sont donné rendez-vous devant la mairie et devant le palais de justice principal de la ville, faisant à chaque fois face à des centaines de policiers et à leur gaz lacrymogène. Le maire Ekrem İmamoğlu, lui, a comparu hier devant un tribunal pour la première fois depuis son arrestation mercredi pour des accusations de corruption et de soutien au terrorisme accusé. accusations qu'il conteste vivement. En Israël, le gouvernement doit examiner aujourd'hui un projet de destitution de la procureure de l'État, et ce en plein bras de fer autour du limogeage du chef du Shin Bet. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, appelle à une grève générale si le Premier ministre refuse de tenir compte de l'avis de la Cour suprême, qui a décidé de geler la décision du gouvernement de renvoyer le chef de la sécurité intérieure. Et l'on retourne donc ce matin à Berberati, troisième et dernier épisode de notre série de reportages dans cette ville du sud-ouest de la Centrafrique, à 500 km environ de Bangui. Et s'il est un des lieux bien emblématiques de cette ville, c'est le marigot de Batouri, surnommé affectueusement la plage. On y vient pour s'y baigner, mais aussi pour danser, écouter de la musique ou faire des rencontres. Reportage de Rolf-Steph Domielleux.
La Batouri, une rivière nichée au pied de deux collines à l'entrée de Berberati. Avec ses eaux grises, son sable doré et sa végétation verdoyante, elle offre des expériences inoubliables. Le spectacle est à couper le souffle depuis le pont métallique qui permet le passage des véhicules. Kelly Mermoz aime regarder l'eau qui coule.
La Batouri est toujours calme et resplendissante. Son paysage qui est si naturel me donne toujours l'envie d'y plonger. C'est un véritable trésor pour se détendre après une semaine remplie d'activités. J'aime sa tranquillité, j'ai l'impression que ça améliore ma vie.
Entourée de rochers, de palmiers et d'une forêt dense, cette rivière fait partie de la culture et de l'histoire de Berberati. Âgée d'une cinquantaine d'années, Saturnin y pratique la pêche depuis de nombreuses années.
La pêche est rentable dans notre partie de la rivière. Comme vous voyez, elle n'est pas polluée. Les clients achètent nos poissons et les font griller sur place pour les manger. J'adore cette ambiance qui me permet de gagner de l'argent.
Dans une ambiance très conviviale, certains sont allongés sur des nattes, d'autres assis sur des bancs ou des rochers. Carole passe la journée avec ses amis en sirotant le vin de palme appelé Kangoya.
La visite de Batouri est toujours une expérience mémorable pour moi. Je vais continuer à siroter mon vin de palme sans regarder la montre. Cette rivière offre toujours des couchers de soleil magnifiques, ce qui vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin de la journée pour finir en beauté.
Certaines allées sont créées entre les rochers pour descendre vers la rivière, d'autres pour remonter vers les lieux de commerce et l'aire de jeu. Après une semaine bien chargée, Ludovic a emmené ses deux filles, Sofia et Katia, pour se détendre.
Je me suis déjà baigné, donc je profite de la sérénité environnante, en observant les oiseaux et en respirant l'air pur. Le doux bruit de la nature berce nos pensées. Mes enfants aiment cette ambiance pour être en contact direct avec la nature et pour s'amuser.
Depuis plusieurs décennies, Batouri est une destination de choix pour ceux en quête d'évasion et de souvenirs inoubliables. Rolf-Steph Domialeux, de retour de Berberati, RFI.
Et les trois reportages de Rolf-Steph Domialeux à Berberati sont à retrouver sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Et demain, le reportage Afrique sera en Afrique du Sud, début de semaine consacré à la recherche génétique. On s'intéressera aux variations des génomes des habitants du continent africain. À 5h50 ici à Paris, c'est l'heure de Chemin d'écriture avec ce matin un récit de quête des origines, de désespoir existentiel et du temps perdu et retrouvé. Bonjour, Tirthankar Chanda.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui, Tirthankar, vous avez lu Brown Baby, roman de la réunionnaise Fabienne Jonca.
En effet, il s'agit d'un premier roman basé sur un épisode historique peu connu du monde francophone. Auteur de livres et de podcasts sur des sujets divers et variés, Fabienne Jonca s'est inspirée de la tragédie des enfants métis abandonnés après la Seconde Guerre mondiale et elle en a fait le sujet d'un premier roman bouleversant et poétique. Fabienne Jonca.
Il y a quelques années, c'était en 2017-2018, je travaillais sur un projet de documentaire sur les Cape Colored en Afrique du Sud, donc les métis sud-africains. Et lors de mes recherches, j'ai vu un documentaire sur les Brown Babies. Ce sujet méconnu a été une telle obsession que j'ai voulu donner voix à ces Brown Babies, mais j'ai fait aussi énormément de recherches puisque c'est un roman sur fond historique. Pour moi, le propos étant qu'on peut vivre la vie qu'on veut, on sera toujours rattrapé par la grande histoire.
Et Tirthankar, quelle est justement cette grande histoire dont parle Fabienne Jonca ?
C'est la Seconde Guerre mondiale et ses répercussions. C'est dans ce contexte que se déroule le drame des Brown Babies, soit 7000 enfants métis, nés en Allemagne au lendemain de la guerre. Nés des liaisons très mal vues entre des femmes allemandes et les GI africains-américains affectés en Europe. Sous des pressions sociales et matérielles, nombre de ces enfants sont abandonnés par leur mère, puis placés dans des orphelinats ou adoptés par des familles noires aux États-Unis. La plupart de ces Brown Babies ont découvert leurs origines en devenant adultes. C'est cette histoire tragique d'errance et de quête des origines que donne à lire la réunionnaise Fabienne Jonca, mais réimaginée.
Dans Brown Baby, dont l'action se situe à Paris.
En effet, nous sommes ici dans la France des années 1950, où vient débarquer une famille noire de Harlem. Le père Charlie est trompettiste. Il joue dans des clubs de jazz, mais l'essentiel de l'action de ce roman se déroule plutôt dans l'arrière-cour, où les protagonistes évoluent, entourés d'un petit peuple de prolétaires cosmopolites et solidaires. Or, la solidarité et l'affection des siens n'empêchant pas Sam, le fils de Charlie, et sa femme Rosa de connaître le drame et le désarroi lorsqu'il découvre qu'il est un enfant adopté, abandonné par ses parents biologiques. La quête des origines de Sam constitue le cœur brûlant de ce récit, raconté avec un sens consommé du tragique, rare dans un premier roman.
Thierry Tancard, pourquoi faut-il, selon vous, lire ce roman ?
Tout d'abord, il faudrait le lire pour découvrir une histoire peu connue qui nous fait plonger dans les abîmes de l'existence humaine. Deuxièmement, il faut lire ce roman pour sa narration ludique, inventive, avec des chapitres intitulés « D'après des œuvres d'art », des titres des morceaux de jazz ou encore des titres de livres. Enfin, il faut lire ces pages jalonnées de poésie, dont ces vers qui reviennent hanter le protagoniste à la disparition de son premier amour, Fabienne Jonca.
À une passante. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Baudelaire, poète de chevet de Fabienne Jonca.
Merci Thierry Tancard Chanda, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Chemin d'écriture. Création ce matin, Maria Afonso avec Anaïs Lefebvre, créatrice de bijoux et de sacs en cuir.
Je pourrais pas du tout faire tout le temps la même chose ou faire ce qu'on me demande de faire sans avoir ma part de créativité.
Anaïs Lefebvre, maroquinière.
Ça a commencé avec les surnoms de mes enfants, Malout et Zazouille, et donc MZ Création.
Née dans les Yvelines, en Ile-de-France, Anaïs Lefebvre a grandi dans un environnement artistique avec un père architecte et un grand-père artiste peintre. Elle s'oriente vers un baccalauréat littéraire, option art, puis des études de graphisme avant d'intégrer les beaux-arts. Après son diplôme, elle travaille dans la restauration d'œuvres d'art pour des musées, galeries, ainsi qu'une grande maison de luxe. En 2011, sa passion pour le cuir l'amène à fonder sa propre marque, MZ Création, à la démarche éthique. Anaïs Lefebvre utilise des matériaux provenant d'une association qui récupère et valorise les rebuts des maisons de maroquinerie de luxe afin de soutenir une approche durable.
La Réserve des Arts est une association qui collecte les chutes de plein d'entreprises différentes, et notamment dans le cuir. Je travaille avec des mégisseries qui récupèrent eux-mêmes des fins de série de tanneries qui n'ont pas été vendues et qui ont donc une grande diversité de peaux. J'attache beaucoup d'importance à avoir du cuir qui vienne de France ou d'Europe, plutôt France-Italie.
Dans un souci de respect des matières et au-delà de ses créations, la maroquinière propose des restaurations-réparations.
Le fait de restaurer, de réparer, je trouve ça intéressant parce que les gens ont des pièces auxquelles ils tiennent beaucoup. Et moi, je vais leur redonner une seconde vie. Ça me demande une gymnastique intellectuelle complètement différente que la création. Ça me stimule. Je fais de la fabrication et j'optimise au maximum ma matière première. Donc je vais utiliser la moindre chute pour faire un bijou, une ceinture, un accessoire. Je fais de la formation et je vends des journées où les gens viennent fabriquer leurs propres sacs. La formation professionnelle où les gens viennent se former chez moi. Les trois grandes lignes me plaisent et font que je suis accomplie.
Aujourd'hui, Anaïs Lefèvre aspire à transmettre sa passion et son approche éco-responsable dans la maroquinerie afin de sensibiliser et d'inspirer la prochaine génération d'artisans.
Je fais déjà des interventions auprès de jeunes publics pour sensibiliser aux métiers d'art. J'aimerais beaucoup travailler avec des étudiants. Je trouve que c'est intéressant pour eux de voir qu'il n'y a pas trop de limites et de leur montrer que ces métiers-là existent encore.
Retrouvez l'univers de MZ Création sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Afrique Matin sur RFI.
Et l'on termine cette demi-heure ensemble en musique sur la playlist RFI ce dimanche matin. Les Congolais de Kingolo Kinyata, leur spécialité, faire de la musique avec des instruments qu'ils créent eux-mêmes. Et le titre, c'est L'Issekité. De King Kongolo Kinyata sur RFI. Passez une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.